sa Mirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Nous sommes dimanche 30 juillet 2023. Vous êtes sur la radio Nzambagate Kakawe. C'est le moment de suivre l'actualité qui a marqué cette semaine. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Niongere. Droit de l'homme pour débuter. Pour pouvoir guérir une maladie, il faut d'abord la reconnaître. Le président de la République devrait être préoccupé par les violations des droits humains qui se multiplient de plus en plus dans le pays, surtout les violations des droits de la femme. C'est ce qu'explique Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro. Elle se base sur l'exemple de Floriane Irangabie, dont la santé est du jour au lendemain plus fragile. Elle lance un cri d'alarme à l'endroit du ministère en charge de la promotion féminine et du ministère de la Justice pour que la journaliste ait accès aux soins de santé au lieu de la faire subir des traitements dégradants et inhumains. On l'écoute.
Le président de la République révèle de temps en temps qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, que ce soit dans la gouvernance, la justice ou l'économie. Il devrait aussi inclure le domaine des droits de l'homme et accorder plus d'attention aux multiples abus des droits des femmes que nous observons de plus en plus aujourd'hui, plus que jamais auparavant. En effet, pour pouvoir résoudre un problème, il faut d'abord le reconnaître et lui trouver ensuite des solutions appropriées. Le déni et l'impunité qui entourent les violations des droits de l'homme au Burundi prouvent à suffisance que ce domaine est en souffrance. Les droits des femmes et des filles sont constamment violés et des cris d'alarme continuent de sonner, mais il y a silence et indifférence. Les cas des femmes et filles qui sont emprisonnées actuellement ou qui subissent d'autres abus juste parce qu'elles ont défendu le droit ou la vérité, comme par exemple l'éducatrice Emilienne Sibomana ou même l'écolière Christelle Ndayishimiye, si on considère la manière dont ceux qui sont en charge de la justice gèrent ces problèmes, on comprend très bien comment les droits des femmes ne sont pas respectés au Burundi et la manière dont on croirait que cette question ne figure pas parmi les priorités du pays qui préoccupent les organes en charge. Regardons le problème de la journaliste Floriane Irangabie, arrêtée depuis le mois d'août 2022 et détenue à la prison de Muyinga, loin du tribunal en charge de son dossier, loin de sa famille, et qui est maintenant gravement malade, alors que l'hôpital de Muyinga ne peut même pas soigner sa maladie. On dirait que ce n'est pas du tout un problème, chose que toute personne d'humanité et de bonne foi ne pourrait comprendre. Normalement, ce genre de problème devrait profondément préoccuper le ministère en charge de la promotion et des droits de la femme, qui est aussi le ministère en charge des droits de l'homme, ainsi que le ministère de la Justice, la CNDH et tout défenseur des droits de l'homme de bonne foi. La ministre en charge de la Justice devrait prendre ses responsabilités et tout faire pour que Floriane Irangabie soit autorisée à aller se faire soigner.
Et puis, 4 personnes, dont une femme, ont été arrêtées par la police judiciaire lundi de cette semaine. Ils ont été tous appréhendés à la colline Gashibuka de la commune Muhanga en province Kayanza au moment où ils s'apprêtaient à conduire discrètement vers la Tanzanie 43 adolescents à qui ils promettaient de trouver de l'emploi. Pour le moment, la majorité de ces enfants sont déjà dans leurs familles respectives pendant que les 4 personnes sont sous interrogatoire pour des raisons d'enquête. Le point avec Eddie Claude Nininazu.
Selon des sources sur place, les 43 jeunes adolescents proviennent des provinces Kayanza et Ngozi. Ils avaient été discrètement rassemblés dans une habitation située sur la colline Gashibuka pour être conduits vers la Tanzanie, un pays où ceux qui les avaient rassemblés leur promettaient de trouver l'emploi. Après que la police a pris la nouvelle, elle a tenté de mettre la main sur celui chez qui ses enfants se trouvaient, mais sans succès, parce que lui et le chauffeur qui allait conduire les enfants vers la Tanzanie avaient déjà pris le large. Faute d'appréhender les deux fugitifs, la police a arrêté la femme et propriétaire de la même habitation, ainsi que 3 autres hommes, mais dont les origines ne sont pas rapportées par les mêmes sources. Ces 4 personnes sont alors actuellement sous interrogatoire pour des raisons d'enquête. Et ces enfants qui allaient être embarqués vers la Tanzanie sont pour la plupart des élèves d'un âge variant entre 14 ans et 20 ans. Toutefois, jusqu'à ce mercredi, la majorité parmi eux avait déjà regagner leur famille respective pendant que le reste de ces enfants attendaient à l'arrivée de leurs parents pour les récupérer. Signalons que ce n'est pas pour la première fois que deux jeunes de la même commune de Mwanga partaient pour la Tanzanie, toujours en quête de travail.
Merci à toi, Eddie Claude Ninina Hazwe. En politique, le Sénat du Burundi cherche à faire disparaître les accords d'Arusha en voulant inviter le 31 juillet de cette année les autorités sur évaluation du système de quotas ethniques, comme le dit Frédéric Bambouginyumvila, président de la coalition des forces de l'opposition CFOR Arusha. Cette organisation politique vient de faire une déclaration pour montrer que les accords d'Arusha ont mis en place ces quotas ethniques pour éviter des conflits politico-ethniques. On l'écoute.
Nous avons organisé les élections en 2005. Et voilà que nous qui avions discuté à Arusha sur comment orienter l'avenir du peuple burundais, les élections ont été gagnées par une autre formation politique qui est le CNDD-FDD, qui n'avait pas participé aux discussions d'Arusha, mais également qui, en réalité, n'entendait pas de bonne oreille la mise en application de cette orientation politique. Il y a des preuves. Et à partir de là, ils n'ont pas osé dénoncer cet accord d'Arusha dès au départ. Ils se sont engouffrés là-dedans, mais en réalité pour le saborder du dedans. La première étape de saborder cette orientation politique, c'est l'intervention du président Nkurunziza au mois de juillet 2005 à travers le bimensuel Kirimba numéro 1, juillet 2005, page 67, où il dit « Nous n'avons jamais voulu entrer dans la logique du jeu institutionnel qui attribue 50% au poste de poste au Hutu et 50% de place aux Tutsis au sein de l'armée et du Sénat. Cette répartition ne nous concerne pas. » Fin de citation. Et à la même page, à la deuxième colonne, il ajoute « Plus tard, cette constitution devra être amendée sur cette question des quotas précisément. » Donc, il annonçait déjà une nouvelle constitution qui allait se défaire de ces quotas, parce que ces quotas les empêchaient de diriger le Burundi comme ils l'entendaient. Ça, c'était la première étape. Cette annonce était constituée la première étape. Et la deuxième étape, c'est justement le forcing effréné du sein des FDD d'organiser un référendum pour abroger la constitution de mars 2005. Et souvenez-vous que l'Assemblée nationale, qui avait été consultée pour décider s'il fallait abroger l'accord ou amender l'accord, et le peuple burundais, les représentants du peuple burundais se sont prononcés contre l'abrogation ou l'amendement de cette constitution, parce que ça émanait du consensus des Burundais.
Frédéric Bambouginyumvila explique que le respect des accords d'Arusha est incontournable pour espérer un nouvel ordre politique, économique et judiciaire au Burundi. Toujours en politique, dans la suite de l'hebdomadaire de l'actualité, 21 parlementaires du parti CNL se sont réunis jeudi dernier pour demander au ministère de l'Intérieur de permettre la reprise des activités de ce parti. Dans une conférence de presse organisée, ils ont profité de l'occasion pour exprimer leur soutien au leadership de l'honorable Agathon Rwasa, président du parti. Le député Pamphile Malayika parle au nom des 21 parlementaires. On l'écoute.
Et suite à l'inertie observable dans le blocage des activités par le ministre de l'Intérieur, malgré tous les efforts fournis en vain par les responsables du parti et les représentants du parti à tous les niveaux, nous, parlementaires de ce parti, prenons ce canal de communication via ce point de presse pour exprimer notre indignation envers le comportement de l'autorité publique qui ne fait que verrouiller indéfiniment et injustement les activités du parti. Deuxièmement, en effet, nous ne comprenons pas comment l'autorité continue à faire sourdes oreilles à toutes les lumières lui apportées par le représentant du parti à tous les niveaux, allant dans le sens de lui exhiber clairement combien les décisions figurent dans les correspondances du 17 mai et du 2 juin 2023 du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique sont injustes et le prix chaque fois pour qu'il lève ces sanctions. Nous ne parvenons pas à comprendre le ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire de la Sécurité publique qui a annulé à travers sa lettre du 17 mai 2023 les conclusions des deux congrès que lui-même avait autorisé les retenues, alors que les décisions de la Convention nationale du parti sont souveraines et par définition inattaquables en vertu de l'article 54 des statuts de 2019 du parti. À tout ce qui a été énoncé dans tous les postillons mentionnés, nous, les 21 parlementaires ici du parti CNL, voudrions porter à l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui se... Nous demandons avec toute énergie au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique de lever les sanctions prises injustement à notre parti afin de pouvoir permettre la reprise des activités actuelles du parti sans délai. D. Nous soutenons fermement la Convention nationale qui a adopté à l'unanimité les modifications des statuts et du règlement de l'intérieur du parti CNR en date du 12 mars 2023 et approuvé les membres de l'organe national du parti en date du 30 avril 2023 conformément au texte amendé. Nous fustigeons, rejetons catégoriquement la décision fantaisiste du 4 juillet 2023 des 10 dissidents portant suspension du président et représentant légal du parti dans ses fonctions car il ne faisait plus partie d'aucun organe du parti et de surcroît aucune disposition de statut et du règlement intérieur.
Il n'y a pas longtemps, 11 députés du même parti avaient annoncé démettre de ses fonctions de président du parti Agathon Rwasa, ce que le camp d'Agathon Rwasa avait considéré comme nul et nul effet parce que les 11 députés avaient été suspendus de son parti bien avant.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Page économie de cet hebdomadaire de l'actualité qui a marqué cette semaine, l'augmentation du prix des stands du marché va perturber le commerce, ce qui devrait engendrer des conséquences néfastes sur la perception des taxes. C'est l'explication de Fosendi Koumana, directeur national de Parsem, Parole et Action, pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Il le dit après l'annonce du maire de la ville de Bujumbura de la hausse des prix des stands dans le marché qui était à 100 000 francs burundais et qui passe maintenant à 600 000 francs burundais. Pour lui, le gouvernement devrait revoir cette décision car les Burundais sont dans une extrême pauvreté. On l'écoute.
J'imagine qu'il faut voir tant que si le prix est multiplié par 6 d'un coup, ça peut causer un coup au niveau des activités de certains commerces. Il fallait voir, faire une analyse profonde, voir si c'est d'affaires est à quel niveau, comment ça s'est organisé. Mais même s'il advenait qu'on constate que le prix qu'il payait était moins élevé, j'imagine que on devait opérer cette hausse progressivement, pour ne pas casser d'un coup les prévisions de ces commerçants. Pareil, il y a des conséquences aussi au niveau du coût d'origine. Déjà, la production alimentaire n'est pas suffisante. Les produits alimentaires provoquent une inflation, même actuellement très significative. Au sein de l'inflation globale, outre cette rareté qui provoque une augmentation des prix, le transport devient extrêmement cher suite au manque de carburant. Il y a les taxes aussi qui sont appliquées ici et là, cours de route, il y a la corruption, des fois des policiers. Ça augmente le coût de revenu global. Ça veut dire que le prix de vente va augmenter, ce qui sera supporté par le consommateur final. Ça veut dire qu'on ne peut pas des mesures, soit-disant qu'on est en train de vouloir renflouer les caisses de l'État, les caisses des communes, mais il faut regarder l'autre face. Il y a pire, mais aussi face, parce que cela peut provoquer un tort à la commune, parce que si ces prix continuent à augmenter, tel que nous le voyons actuellement, il n'y a pas de gain. Dans l'ensemble, il faut alors voir, analyser. Et la mesure a été active, il faut voir faire une augmentation progressive pour permettre aux commerçants de faire leurs activités avec un bénéfice qui les permet quand même d'investir dans leurs familles de façon décente.
Le gouvernement du Burundi a revu également à la hausse les prix de transport. Cette hausse vient aggraver la situation des citoyens, surtout qu'elle est conséquente à une autre hausse du prix, celle du carburant, qui n'est même pas disponible sur le marché. Des habitants de différentes provinces expriment leur frustration. Ils demandent au gouvernement de tout faire pour au moins trouver du carburant pour sauver la vie de ceux qui sont capables de s'en procurer. Pour ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Inzamba à Gatekakawe, le reste des citoyens est dans le désespoir total. C'est par-ci que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Vous étiez avec Bonfils Nyongere à la présentation. Au revoir et à la prochaine.
Zambia,
rétrospective de l'actualité de la semaine.